BFM Business partenaire.
BFM Stratégie avec Sandra Gandoin sur BFM Business.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de BFM Stratégie en partenariat avec le BCG, le Boston Consulting Group. Aujourd'hui, on va parler de Green Tech, ces solutions innovantes qui permettent de réduire l'impact environnemental des entreprises et des consommateurs. Selon un récent rapport de BPI France, les Green Tech représentent le premier secteur d'investissement en 2023. Elles ont attiré 2,8 milliards d'euros l'année dernière, soit 9% de plus qu'en 2022. Alors, on va se poser ces questions. Comment expliquer ce succès? Comment faire passer ces solutions à l'échelle? Comment se positionnent nos Green Tech, les Green Tech tricolores? C'est le sujet d'une récente étude BCG publiée en 2024 qui a interrogé une quarantaine de dirigeants d'entreprises et de Green Tech françaises. Et pour en parler sur ce plateau, je reçois deux experts qui ont contribué à ce rapport. Emmanuel Ostruit, directeur associé au BCG, responsable du centre d'expertise énergie du BCG France, et François Bastard, chef de projet senior et responsable du sujet Green Tech pour BCG France. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau.
Merci Sandra.
Première question, Emmanuel, pouvez-vous nous expliquer l'engouement autour des Green Tech et finalement ce que l'on attend d'elles?
Avec plaisir, merci Sandra. Alors effectivement, aujourd'hui on est sur des émissions mondiales de gaz à effet de serre équivalent d'à peu près 60 milliards d'équivalent CO2. Dans ces émissions, finalement, le secteur de l'énergie représente une grosse partie, à peu près les trois quarts, hein, qui viennent de la production, de la consommation d'énergie à la fois dans les véhicules roulants, donc ou les véhicules volants ou marins, dans le bâtiment pour chauffer les bâtiments en grande partie, et puis dans tous les secteurs qu'on les connaît qui consomment de l'électricité. Alors le reste, c'est l'agriculture, le reste, c'est les régimes alimentaires, la production de déchets, un certain nombre de productions type ciment, aluminium, acier. Et au fond, la France, c'est à peu près 600 millions de tonnes d'équivalent. Donc, c'est à peu près 1% hein, des émissions mondiales. C'est intéressant d'ailleurs parce que le PIB mondial autour de 96 000 milliards et le PIB français autour de 2700 milliards, on voit qu'on a une part dans le PIB mondial qui est un peu supérieure au pourcent. Alors, ça s'explique assez bien parce qu'on a une électricité qui est quasiment à 100% décarbonée. Donc, ça nous donne un petit avantage. Mais on a quand même 600 millions de tonnes dont il faut se débarrasser. Et alors, François va nous détailler les Green Tech dans une seconde. Mais oui, au fond, on ne les oppose pas à la sobriété. C'est-à-dire que le rapport de l'an dernier du BCG était sur la sobriété. Cette année, c'était sur les Green Tech. Le rapport 2022 hein, sur la sobriété, pour ceux que ça intéresserait de le lire. Au fond, on pense que 10% du chemin devrait pouvoir être exécuté avec la sobriété. Ça a l'air peu, mais 10%, c'est énorme. Hein. En réalité, il faut beaucoup de changements de comportement. Donc sur les mobilités douces, sur les réductions de consommation, d'économie d'énergie par la sobriété, et que les Green Tech vont représenter 90% du chemin. Donc elles sont capitales pour la décarbonation.
François, justement, on va expliquer hein, ces chiffres très encourageants. Quand on fait référence au Green Tech, de quelle technologie on parle concrètement? Ces solutions sont-elles matures d'ailleurs aujourd'hui?
Alors, quand on parle de Green Tech, on parle de technologies industrielles. Ces technologies industrielles, elles vont accompagner nos changements de comportement dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Elles vont aussi transformer notre système énergétique, transformer notre système industriel pour que lui aussi y consomme moins, pour que lui aussi y consomme mieux. Dans le détail, derrière le mot Green Tech, il y a en fait tout un portefeuille de solutions technologiques qui existent et qui ont des différents niveaux de maturité. Les plus matures d'entre elles sont déjà dans notre quotidien. On parle par exemple des énergies renouvelables, du nucléaire ou encore de la voiture électrique. Mmh. On a ensuite tout un ensemble de technologies qui sont matures technologiquement, mais en phase d'adoption. Donc là, on va retrouver par exemple les technologies de pilotage des bâtiments. On va récupérer par exemple le biogaz. Et en fait, quand on regarde à l'image, au niveau du portefeuille, ensemble ces technologies matures en adoption, elles ont le potentiel de réduire 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc 50%, c'est très significatif. Ça veut dire qu'on peut déjà faire beaucoup avec les technologies qui sont déjà accessibles. Mmh. Le pendant restant, c'est les 40% qui somment à 90% dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Et là, ça veut dire qu'on a besoin aussi d'accélérer la maturité des technologies qui sont aujourd'hui ou bien encore à l'état de démonstration, voire à l'état de prototypage.
Alors, quels sont les freins qui empêchent les Green Tech d'être pleinement déployés, François?
Alors, on cite spécifiquement pour les Green Tech trois freins principaux. Le premier frein, il est industriel. On estime que si on veut réussir à tenir les trajectoires de décarbonation des objectifs des gouvernements, on va avoir besoin d'industrialiser 2 à 6 fois plus vite les nouvelles green tech par rapport à ce qu'on a été capable de faire dans le passé. Le deuxième challenge, il est économique. C'est-à-dire que quand on prend les green tech aujourd'hui, on estime que 55% d'entre elles sont déjà compétitives financièrement ou le seront bientôt. Le troisième challenge, il est lié à l'approvisionnement en matières premières.
Oui.
Voilà. En fait, ces nouvelles technologies, elles reposent sur des nouveaux matériaux et pour certaines d'entre elles, l'accès aux matériaux, aux matières premières sera très important. On prend par exemple les batteries des véhicules électriques. Un des composants majeurs de ces batteries, c'est le lithium. Et aujourd'hui, le lithium, il est extrait principalement en Australie et au Chili et il est transformé quasi exclusivement en Chine. Ces trois freins, il faut en tenir compte, qui sont spécifiques au green tech, il faut en tenir compte dans un phénomène aussi plus global, qui est la régionalisation des chaînes d'approvisionnement et des chaînes industrielles, qui fait que quand on regarde le problème dans son ensemble, pour réussir sa décarbonation, l'Europe a besoin de développer et de mettre en place son propre système des green tech.
Alors, quand on parle d'Europe justement, Emmanuel, comment ces green tech peuvent contribuer à la réindustrialisation du continent ?
Alors, c'est un point assez intéressant parce que, au fond, quand on fait un peu le bilan des dernières années, la Chine, l'Asie en général, mais la Chine en particulier, est devenue un peu l'usine du monde, l'atelier du monde, on en parle souvent. Les États-Unis, avec les GAFAM, ont une domination sur le numérique qui est très forte. Et au fond, les green tech de première génération, quand on prend, François parlait des technologies matures, on pense typiquement au solaire, aux panneaux solaires, oui. On pense typiquement aux éoliennes. Quand vous prenez un panneau solaire aujourd'hui ou un convertisseur en fait de courant qui va aller avec ce panneau solaire, énormément sont fabriqués en Chine, la quasi-totalité des panneaux solaires. On parle de ramener des gigafactories, d'ouvrir des usines en Europe et aux États-Unis, mais soyons francs, la première course sur les green tech de première génération, elle est un peu perdue en grande partie contre la Chine. Et la course pour les green tech de deuxième génération, elle est lancée. Alors je pense que vous voyez derrière moi un certain nombre d'infographies qui montrent que typiquement sur le solaire, on a à peu près 400 gigawatts qui ont été installés en Chine, 200 gigawatts pour l'Europe. C'est-à-dire que la Chine, non seulement elle produit des green tech, mais en plus elle en installe énormément. Mmh. Et quand vous prenez ça, c'était un chiffre 2022, c'est encore plus spectaculaire si vous ajoutez 2023, les Chinois, ils ont ajouté environ 200 gigawatts de plus. Donc ça veut dire qu'ils continuent eux-mêmes de se décarboner et eux-mêmes de produire les green tech pour leur décarbonation. Alors, on a appelé ce rapport les green tech au cœur de la décarbonation, on vient d'en parler tous ensemble, et de la souveraineté économique et de la réindustrialisation. Alors, pourquoi la réindustrialisation et pourquoi la souveraineté économique ? La réindustrialisation, parce que on pense qu'il faut investir à peu près 2800 trilliards dans ces green tech. Au niveau européen, on pense qu'elles vont créer 2,4 millions d'emplois. Donc on parle en termes de réindustrialisation de quelque chose qui est massif, au fond. C'est pas l'épaisseur du trait en termes de création d'emplois et de création de richesses économiques. Et puis on reviendra après avec François sur ce qu'il va falloir faire entre les acteurs et comment on va pouvoir financer et développer tout ça. Et puis c'est un enjeu de souveraineté très fort parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que si on se dit l'énergie, c'est notre avenir, économisons-la, comme dirait l'ADEME, mais en tout cas, au fond, c'est un enjeu stratégique. On voit que si on ne fait que importer des green tech étrangères, on crée le même problème que ce qu'on a aujourd'hui sur l'importation de pétrole qui est concentré dans certains nombres de régions. Donc, le fait de produire en Europe et de consommer nos green tech en Europe nous donne aussi un enjeu de balance commerciale et de souveraineté économique.
Et les acteurs qui vont participer, parce que les chiffres que vous avez donnés sont énormes, les acteurs sont prêts à cela.
Alors on va le développer un peu après avec François, mais on a un certain nombre d'acteurs qui ont fait ça déjà depuis longtemps. Les montants d'investissement sont massifs et il faut savoir que les États ont fléché à peu près 800 milliards de subventions sur les 2 trilliards 8, sur les 2800 milliards. Donc ça veut dire qu'on voit que indépendamment de la capacité industrielle des acteurs qui donc doivent se tenir prêts, en plus il faudra une capacité de financement privé extrêmement forte. Donc les acteurs en fait, ils l'ont développé depuis un moment, il y a encore des choses à faire, on a parlé sur ce plateau d'hydrogène à plusieurs reprises, avec vous et avec Frédéric. Au fond, on voit qu'il y a encore des secteurs sur lesquels il faut du développement technologique et il faut de l'installation.
Et François, il va falloir créer des champions de cette décarbonation, comment on va faire ?
Alors déjà, si on prend une photo aujourd'hui de l'écosystème des green tech, une grande partie d'entre elles sont aujourd'hui portées par des start-up industrielles et cet écosystème, il est très riche. Donc on a une très bonne base, je ne vais pas l'appeler de départ, on a une très bonne base pour 2024.
Vous êtes confiant ?
Alors, cette bonne base, maintenant, il faut la convertir. Là, on parlait d'une course internationale et faire passer ces champions, ces start-up industrielles à l'échelle de champions, En fait, ça va demander des actions de tous les acteurs et pas seulement ces entreprises. Et ces actions, par exemple, ça va les impacter de manière individuelle. Donc, je disais ces acteurs, on parle des grands groupes, on parle des investisseurs, on parle aussi des acteurs académiques. Les universités doivent faire évoluer leur offre de formation, les acteurs publics. Et ça, c'est vraiment quelque chose. On a besoin que l'ensemble des entreprises, l'ensemble du monde économique se mette en mouvement. Prenons un autre exemple, les grands groupes qui sont aujourd'hui établis, qui sont déjà très installés dans notre panorama industriel, on attend d'eux qu'ils prennent le rôle de chef de file de transformation de leur filière et qu'ils envoient des signaux très forts vers le développement de ces nouvelles green tech. Ce signal-là va permettre d'emmener tout un ensemble d'acteurs qui vont être rassurés, qui vont pouvoir prendre le train, embarquer des investisseurs, embarquer les partenaires publics. Et ce faisant, ces grands groupes vont s'y retrouver parce que ce seront les premiers à bénéficier de ce qui aura été développé. Et donc ça, ce que je voulais dire justement, c'était ça, c'est les actions individuelles.
Ouais.
Et en fait, la rapidité du changement dont on a besoin, quand on regarde, il n'y a aucun acteur qui aujourd'hui a toutes les cartes en main pour répondre à cet enjeu de vitesse. Donc il y a aussi des actions collectives qu'il faut mettre en place. Et donc pour ça, il faut assembler un ensemble d'acteurs qui sont très différents pour les faire travailler ensemble très vite vers un but commun en mettant chacun sur la table leurs avantages. Et ça, c'est très difficile. On parlait des grands groupes tout à l'heure. En fait, ce sont des groupes qui, culturellement, pour la plupart, se sont construits en étant très très forts pour optimiser à la maille de leur périmètre. Et là, on leur demande de bouleverser complètement la manière dont ils travaillent avec, avec leurs partenaires pour créer ces partenariats, pour créer ces écosystèmes qui se développent. La bonne nouvelle, et je terminerai là-dessus, c'est que ces écosystèmes, en fait, ça paye. On a vu au BCG qu'en fait, ces coalitions d'acteurs arrivent à mettre sur le marché beaucoup plus rapidement des solutions innovantes comme les green tech, et ce faisant, rendent une performance aussi économique supérieure.
On y arrive ensemble, hein. C'est comme ça effectivement qu'on crée ces champions très très vite, Emmanuel. On a parlé de l'Europe, comment se positionne la France dans ce domaine ?
Alors, comme on le dit souvent sur BFM, la France a tout pour réussir.
Ah,
parce
oui.
que dans tout ce qu'a mentionné François et qu'on a un peu énuméré à travers cette discussion, au fond, on a des grands groupes. Donc, on a des grands groupes qui sont pas seulement grands, qui sont leaders mondiaux de leur secteur. Donc, ils sont leaders mondiaux dans l'énergie, ils sont leaders mondiaux dans l'environnement, ils sont leaders mondiaux dans l'hydrogène. On a un certain nombre de leaders mondiaux au fond de taille qui permet d'avoir un effet d'échelle, un effet d'innovation technologique qui est extrêmement fort. On a un tissu de start-up très développé. Je pense que vous parliez du rapport BPI tout à l'heure. On a aussi un financement de l'écosystème de start-up qui est extrêmement fort à travers les investisseurs privés et la BPI qui fait un travail remarquable. Donc on a un tissu de start-up sur lequel on n'a rien à envier aux autres. On a un cadre légal et des pouvoirs publics qui réfléchissent à ces choses-là et qui essayent de se projeter dans des cadres un peu stables. Et puis on a des banques de premier plan, on a des assureurs de premier plan, on a des fonds d'investissement de premier plan. Donc au fond, on a les quatre composantes. Encore une fois, on a tout pour réussir.
J'aime votre optimisme, messieurs. Merci à tous les deux. Emmanuel Ostry, directeur associé au BCG, responsable du Centre d'expertise énergie pour BCG France, et François Bastard, chef de projet senior au BCG, responsable du sujet Green Tech pour BCG France. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de BFM Stratégie. À très vite sur BFM Business.
BFM Stratégie sur BFM Business.